Ce n'était pas un tunnel, c'était plus qu'un tunnel, une espèce de tunnel énorme. Je descendais en flottant, j'ai vu beaucoup de gens là-bas. Ils criaient, ils hurlaient, je dirais qu'il y en avait peut-être 1 million. Ils étaient misérables et remplis de haine. Ils demandaient à boire, ils n'avaient pas d'eau du tout. Et tout d'un coup, je l'ai vu. Il était muni de petites cornes. Je l'ai tout de suite reconnu. Le diable en personne.
Petite corne. Petit monde.
Ça me manque, ces noms d'autrefois. Il est temps de rentrer à la maison, fils.
Je vais te mettre à bas. Son honneur.
Éteignez les lumières. Fermez votre porte. Décrochez le téléphone. Nuit blanche, couleur 3.
J'étais complètement détaché de ce que j'ai décrit comme mon costume de gorille. Tout d'un coup, et très rapidement, je me suis mis alors à flotter hors de l'ambulance.
Quand est-ce que ça va s'arrêter?
Pourquoi crois-tu que je sois revenu? Il voulait des âmes. Je t'ai donc amené à lui. Et tu voulais savoir. À présent, tu sais tout.
Il lui a fait l'injection et il est revenu à la vie 9 minutes après avoir été déclaré mort. Son cœur a recommencé à battre. Il avait du mal à retrouver son corps, car il était recouvert d'un drap. Il a fini par le voir et comprendre qu'il s'agissait de son corps. C'est là que tout a commencé.
Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 2 de Nuit Blanche. Nuit Blanche, un podcast disponible les soirs de pleine lune, pour ceux et celles qui préfèrent frémir que dormir. Ou plutôt, cette fois-ci, pour ceux et celles qui préfèrent mourir que dormir. Car nous allons aborder un sujet tabou et angoissant, un sujet sur lequel il est difficile de mettre des mots. Et c'est pourtant ce que nous allons faire en abordant la mort. Une question simple, une réponse complexe. Que se passe-t-il lorsque notre cœur s'arrête de battre? Lorsque notre cerveau cesse de fonctionner? Est-ce un point final? La disparition? La dissolution de tout ce qui a fait notre identité et qui ne sera plus jamais? Ou est-ce le début d'une nouvelle odyssée pour une âme qui a été, qui est et qui sera pour l'éternité?
Tu peux l'entendre?
Et si c'est le cas, où va-t-elle dans l'instant d'après? Va-t-elle se déployer dans un au-delà serein et léger afin de poursuivre son voyage en direction d'une lumière céleste remplie de douceur et de bonté? Ou alors, va-t-elle chuter dans l'antre du diable, ce repère terrifiant et tellement redouté, peuplé de démons tourmentant sans relâche dans un gigantesque brasier, des milliers d'âmes condamnées à la souffrance à perpétuité? C'est en ces termes effrayants que parlent certains expérienceurs de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vécu pendant une expérience de mort dite infernale. Car si certains sont allés vers la lumière, d'autres se sont rendus directement en enfer. Leur propre enfer, qu'il soit fait de vide intersidéral ou de rencontre avec le diable. Des expérienceurs, mais surtout des survivants, qui ont eu la chance inespérée de revenir de l'autre côté. Ils sont les témoins privilégiés de quelque chose que nous avons encore du mal à appréhender, mais qui soulève énormément de questions métaphysiques, mystiques, théologiques, philosophiques et scientifiques.
Il réagit à l'adrénaline, docteur. Défibrillateur.
Allez-y.
Électrode.
Cette nuit blanche, entre la vie et la mort, vous est proposée par Anne Flamand et Michael Marquet. À la réalisation Franck Pourpri, une expérience sonore imminente pour troubler les esprits. Avez-vous déjà entendu parler des EMI, acronyme de « expérience de mort imminente » ou encore du terme anglais « NDE » pour « Near Death Experience ». L'expérience de mort imminente est une expression née en 1896. Son créateur est français, c'est le psychologue Victor Heger. Il fait référence pour la première fois à ce phénomène extraordinaire dans un article de la revue philosophique appelé « Le mois des mourants » et rédigé suite à des débats entre philosophes et psychologues concernant des récits d'alpinistes ayant vécu une EMI.
Vous avez des attaches sur Terre. Mais même quand on n'a pas de famille, je peux vous dire qu'on a un immense désir d'être avec d'autres gens. Sentiment qui est à la base de ce qui fait de nous des êtres humains. Ce n'est pas à prendre à la légère.
4 ans auparavant, en 1892, le géologue suisse Albert Heim, dans les annales du club alpin suisse, publie « Note sur la mort causée par une chute ». Un récit personnel et exceptionnel, vécu avec d'autres amis alpinistes expérimentés qui l'accompagnaient. Lors de l'ascension du sommet du Sentis, Albert Heim fait une chute qu'il pense mortelle. Mais plutôt que de ressentir la peur d'une fin toute proche, voici ce qu'il raconte.
Je vis à une certaine distance se dérouler comme sur une scène ma vie entière. À travers une lumière céleste, tout paraissait radieux. Tout était beau et sans douleur, sans peur et sans peine. La bataille était devenue amour. Une paix divine traversa mon âme comme une musique sublime. J'entendis ensuite le bruit sourd de l'impact annonçant la fin de ma chute.
Suite à cette expérience qui dépasse l'entendement, il décide de collecter les témoignages d'une trentaine d'autres alpinistes qui ont vécu ce que l'on appelle une revue de vie associée à une sensation agréable de flottement et de calme infini. Si le terme de EMI est employé dès la fin du 19e siècle, l'homme n'a pas attendu sa création pour évoquer un ensemble de visions et de sensations consécutives à une mort clinique. Le sujet de l'après-vie fascine l'humanité, et ce, depuis la nuit des temps.
Oh mon Dieu, il existe vraiment le livre des morts.
El mut tenzel aliefta esanduk. La mort viendra s'abattre d'une aile vengeresse sur les hommes qui auront l'impudence d'ouvrir ce coffret.
Il y a de cela plusieurs millénaires, le livre des morts égyptien, recueil de textes funéraires, décrivait déjà le voyage que doit effectuer l'âme dans l'au-delà pour atteindre le tribunal d'Osiris. Le cœur du défunt sera déposé sur une balance pour juger des bonnes et des mauvaises actions qu'il a commises tout au long de sa vie. Déjà en ces temps lointains, l'homme croit fermement à l'idée d'une survivance après la mort.
Je dirais que c'est peut-être le livre des morts.
Le livre des morts? Vous êtes sûr de vouloir l'ouvrir?
Ce n'est qu'un livre. Quel mal y a-t-il? Lire un livre.
Mais il faudra attendre encore plusieurs siècles avant de pouvoir lire une toute première histoire évoquant les phases caractéristiques d'une Noémie, celle induite par un bref passage dans l'après-vie.
Il ne faut pas le lire à haute voix !
Ce récit fictionnel, parvenu jusqu'à nous, est signé par un illustre personnage de l'Antiquité, Platon. Dans la série de dialogues philosophiques rassemblés sous le nom de La République, il évoque un soldat appelé Er, fils d'Arménios et originaire de Pamphylie. Pendant un combat, il est mis sur un bûcher pour y être brûlé, mais revient à la vie et raconte ce qu'il a vécu dans l'au-delà, où des juges siégeaient, prêts à accueillir les âmes.
C'est mon enfer. Et ils sont là pour me tourmenter. Ils promettent l'éternité à jamais.
Des âmes qui, après la vie, connaissent souffrance ou récompense. Les unes sont plongées dans les pires tourments pour ne pas avoir respecté les règles de sagesse, tandis que les autres sont bien heureuses et récompensées de leur comportement vertueux. On retrouve ici une mise en scène d'une sentence divine rappelant les croyances de l'Égypte antique. Mais encore plus troublant, une évocation de l'enfer et du paradis qui sera décrite bien plus tard dans les textes sacrés de la Bible.
Méfie-toi de cette abbaye. La paix est immonde et toujours parmi nous. Je la sens en cet instant, ici, au sein même de ces murs.
Si au Moyen-Âge, des histoires d'expériences de mort imminente vont être consignées sur papier, elles sont uniquement rédigées par ceux qui savent à l'époque lire et écrire, les ecclésiastiques. Il est donc difficile aujourd'hui d'affirmer qu'elles sont authentiques. Peut-être ont-elles été inventées ou manipulées pour servir un pouvoir religieux en quête d'un monopole absolu sur la vie et sur la mort.
Viens-tu noter combien peu de livres sont entreposés dans le scriptorium ? Tant de scripts, tant de copistes, de traducteurs, de penseurs, de chercheurs. Donc, et la multitude d'ouvrages nécessaires à leur travail, et pour laquelle cette abbaye est réputée. Où sont donc tous les livres ?
Il faudra attendre l'année 1975 pour avoir enfin, entre les mains, un panorama plus tangible et libéré de tout dogme clérical, des récits d'expériences de mort imminente, avec la parution d'un livre, La vie après la vie, signé Raymond Moody. Le docteur en philosophie et médecin américain a rassemblé dans cet ouvrage, vendu à plus de 13 millions d'exemplaires, les témoignages d'une cinquantaine de personnes ayant vécu une EMI.
Les machines ne sont pas douées pour l'improvisation, car on ne peut pas programmer la peur de mourir. L'instinct de survie est de loin notre première source d'inspiration. Tenez-vous par exemple, un père dont l'instinct de survie s'étend jusqu'à ses enfants. Et d'après la recherche, quelle est la dernière chose que vous verrez avant de mourir ? Vos enfants. Leur visage. À l'instant de la mort, votre cerveau va faire un effort un peu plus grand pour survivre. Pour vos enfants.
Ce livre révolutionnaire pose l'une des questions fondamentales et inépuisables que l'on sait toutes et tous un jour ou l'autre poser. Y a-t-il une vie après la mort ? Page après page, chapitre après chapitre, on découvre précisément le déroulement d'une EMI. Le plus étonnant, le plus déconcertant, c'est que les expérienceurs de ce livre ne se connaissent même pas. Ils n'ont pas la même culture, la même religion. Et pourtant, ils racontent un scénario étrangement similaire. Tout d'abord, une mort clinique, puis une sortie hors de son corps. Ensuite, la personne s'engage dans un tunnel au bout duquel rayonne une lumière éclatante. Une scène qui ressemble curieusement à celle peinte au XVe siècle par Jérôme Bosch. Sur l'un des quatre tableaux de Vision de l'au-delà, le maître néerlandais nous propose de contempler un passage circulaire avec au bout une intense lumière. Au premier plan, un homme nu flotte dans les airs, avec les mains jointes comme lors d'une prière. Il est accompagné sur sa droite d'un ange, reconnaissable à ses ailes blanches déployées. Leurs visages sont tournés vers la source lumineuse dans laquelle on aperçoit deux personnages, dont l'un est en train de faire un signe amical de la main. Cette composition picturale de 1486, appelée Montée des Bienheureux vers l'Empyrée, est la toute première représentation artistique d'une Noémie. Pendant ce voyage de l'autre côté, la personne ressent un profond sentiment de joie et d'amour, rencontre des proches décédés, parfois assiste à une revue détaillée de sa vie, avant d'apprendre que ce n'est pas son heure et de retourner, souvent à regret, dans son corps pour enfin reprendre conscience. Jérôme Bosch, dans son quadriptyque, nous propose aussi un panneau dédié au paradis et deux autres à cet endroit tant redouté, celui du châtiment éternel.
Je regrette, mais ça, c'est impossible. Toute cette expérience est impossible.
C'est pas vrai?
C'est trop irréel.
Irréel? Nous avons exploré l'au-delà. Et nous en avons rapporté nos remords, nos péchés. Et ils nous en veulent.
Depuis quand tu as compris tout ça?
L'étoile, la chute des damnés et la rivière vers l'enfer sont une vision cauchemardesque de l'après-vie, avec des forces maléfiques usant de tortures physiques et psychologiques sur de pauvres âmes éplorées. Mais ces représentations occidentales et chrétiennes sont-elles simplement l'expression d'un mythe ou existe-t-il quelque part dans un espace à la fois si loin et si proche un enfer sur lequel règne en maître absolu Lucifer, l'ange déchu?
Lucifer.
Ce monde est mien à jamais. Toi, mieux que quiconque, Gabriel devrait comprendre. L'ambition.
Fils de la perdition.
Vilain ver de terre.
En 1978, soit 3 ans seulement, après la parution du best-seller de Raymond Moody, un cardiologue américain mentionne pour la toute première fois dans son ouvrage « Beyond Death's Door » l'existence d'expériences de mort imminente dites négatives. Maurice Rawlings relate dans son livre des histoires effrayantes de personnes revenues à la vie et implorant de toute leur force le personnel médical de ne pas les laisser replonger dans cette expérience infernale où ils ont vécu l'innommable, l'insupportable. Une expérience si intense qu'elle va marquer à tout jamais leur existence, augmentant au passage de manière significative leur peur de la mort.
Mais tu sais, je t'ai pas tout raconté sur mon expérience. J'ai eu le sentiment que si j'avais osé aller plus loin, j'aurais trouvé une force quelconque, une force bénéfique, qui m'aurait protégé de tout.
Rapidement, d'autres auteurs et chercheurs vont se pencher sérieusement sur le sujet, comme Kenneth Ring, professeur émérite de psychologie et enseignant à l'Université du Connecticut. Il est surtout connu pour les études qu'il a menées sur un grand nombre d'individus ayant eu des expériences de mort imminente. Il est aussi président et cofondateur de l'International Association for Near Death Studies.
Et soudain, alors que j'étais dans le coma, je me suis vue comme si je me regardais d'en haut. Je voyais Ralph. Mon mari, je le voyais pleurer, et le médecin lui disait que ce n'était plus qu'une question de temps. Et je jure que je me suis vue dormir et que j'ai fait tout le reste. Et j'ai commencé à flotter, et je suis sortie dans le hall. Et ensuite, j'ai traversé le tunnel vers la lumière.
Ces chercheurs dénombrent plusieurs catégories de Noémies négatives. On parle parfois aussi d'expériences douloureuses ou infernales, ou alors d'expériences inversées, lorsque la partie en nous qui survit à la mort et qui se dirige vers la lumière ne souhaite pas s'en aller en paix, ne souhaite pas s'abandonner à une énergie d'amour et de bonté, comme si l'âme était entraînée contre sa volonté dans un endroit où elle ne désire pas se rendre.
Ah!
Il existe aussi, dans toutes ces variations sur le thème des EMI dites négatives, une autre tout aussi effrayante, celle de l'expérience du vide absolu. La personne se retrouve dans un environnement où il n'y a plus de temps ni d'espace. C'est le noir complet. Sentiment de solitude, perte de repères, angoisse, voire aliénation mentale, ce scénario provoque chez celui ou celle qui en revient un énorme traumatisme qu'il est difficile de surmonter car il génère un fort sentiment de honte et de culpabilité.
Tu es tiré d'affaire, mon chéri. Le docteur dit que ton cerveau a failli bouillir. Tu es sauvé maintenant. Tu hurlais, tu flanquais des coups de pied. Et tu répétais « Sarah, ferme la fenêtre. » Sans arrêt. Tu parlais à tes gosses, même celui qui est mort. Bizarre, non ?
Je suis mort, là ?
Evelyne Elsesser, membre du bureau suisse de l'International Association for Near Death Studies, explique dans sa publication « La NDE négative, le revers de la médaille ou la face cachée d'une belle expérience » que la personne débouche sur un vide dénué de toute signification. L'expérienceur ressent une impression d'absurdité totale, se sent abandonné, isolé et très angoissé dans un environnement qui ne fait plus aucun sens et qui n'accorde plus aucune signification à sa vie passée.
Non, non, une minute. Attends, dis-moi simplement pourquoi tu tiens à faire ça.
Simplement pour voir s'il y a quoi que ce soit au-delà de la mort. La philosophie a échoué, la religion a échoué, alors il ne reste plus que la médecine.
Ce que décrit ici l'auteur d'origine bernoise, qui se consacre depuis plus de 30 ans à la recherche sur les expériences de mort imminente, c'est très exactement ce qu'a vécu Jean-Gérard Dubois. Et voici son histoire.
C'est quelque chose de terrible, quoi, de terrible. J'existais encore tout seul dans l'univers. J'étais dans l'univers, j'étais je ne sais pas où, quelque part.
Il y a un avant et un après dans la vie de Jean-Gérard Dubois. Le point de bascule se situe très exactement à la date du 28 septembre 2011, le jour où il est mort. En réalité, il n'est pas mort, mais il s'est vu mourir. Pendant une opération du coude a priori banale, il vit une expérience de mort imminente qui va très mal se passer. L'expérience est très intense, elle est proprement terrifiante et profondément bouleversante. Lorsqu'il se réveille après l'opération, il réalise qu'il est toujours en vie, mais il est profondément traumatisé par ce qu'il vient de vivre, à tel point que sa personnalité en reste irrémédiablement marquée. Rembobinons le film de sa vie. Jean-Gérard Dubois est né en 1937. Il passe une enfance heureuse à la campagne, puis ses parents s'installent à Lyon quand il a environ 8 ans. L'enfant est inscrit à l'école catholique. Il fait une scolarité médiocre et il quitte l'école à 17 ans sans aucun diplôme en poche. Ce qu'il aime, c'est dessiner. En 1954, il se fait engager dans un atelier de soierie en tant qu'apprenti. Puis il devient compositeur. Il crée les motifs qui seront plus tard imprimés sur les foulards et les carrés de soie. Il a 20 ans quand il s'installe à son compte et il exercera son métier pendant de très nombreuses années. Au tournant des années 80, Jean-Gérard Dubois et son épouse Evelyne ont envie de changement. Ils quittent Lyon et ils partent s'installer en Ardèche, dans un hameau de 4 maisons, un lieu paisible au bord d'une rivière aux eaux transparentes où ils vivent encore aujourd'hui. Le calme et la tranquillité leur font le plus grand bien sur le plan personnel, mais c'est un désastre sur le plan professionnel. Impossible d'exercer une activité en lien avec la mode depuis un endroit aussi reculé. Son activité périclite. Un peu par hasard, il va alors changer de carrière. Depuis plusieurs années déjà, il est passionné d'archives. Un vrai rat de bibliothèque. Il aime fureter dans les pièces qui sentent le renfermé et dans les piles de papier poussiéreux à la recherche de documents rares. Ce passe-temps devient finalement son nouveau métier. Il recherche des manuscrits et des documents anciens qu'il revend ensuite à des musées et à des fonds publics d'archives. Une fois à la retraite, il coule des jours paisibles dans son hameau ardéchois. Il se consacre à son épouse, il dessine pour le plaisir et il écrit un peu. L'homme a toujours eu l'habitude de coucher ses pensées sur papier. Il tient un journal intime et il écrit régulièrement des textes plus ou moins longs sur tout ce qui lui passe par la tête, souvent des réflexions philosophiques quant aux différents aspects de son existence.
J'aimerais beaucoup jeter un coup d'œil sur cette liste.
Ouais, j'en doute pas une seconde.
Quand il reliera ses textes après avoir vécu son EMI, Jean-Gérard Dubois va brutalement prendre conscience d'un fait à propos de lui-même qu'il ignorait totalement jusque-là. Depuis plusieurs années, les textes qu'il écrit, et donc son propre esprit, sont hantés par l'ombre de la mort. Jean-Gérard Dubois est hanté par la mort, car, détail intéressant de sa biographie, il y a déjà été confronté deux fois. C'était au tout début de sa vie de jeune adulte, quand il avait environ 20 ans. À ce moment-là, il vit coup sur coup deux mésaventures qui lui feront côtoyer la mort d'un peu trop près. Sa première expérience de la mort débute de façon rocambolesque. Jean-Gérard Dubois a failli mourir à cause d'une tranche de jambon. La viande de porc avait été contaminée par de la toxine botulique. Aujourd'hui, on appelle ça du botox. Le botulisme est une affection rare, mais potentiellement mortelle. La toxine botulique provoque une paralysie musculaire, une détresse respiratoire, un blocage de tout le système digestif et des difficultés de locomotion. Jean-Gérard Dubois va rester hospitalisé pendant un mois et demi. À un moment donné, son état est tellement grave qu'on envoie un prêtre lui donner l'extrême-onction, le sacrement destiné aux morts chez les catholiques. Mais il renvoie le prêtre. Il sent que sa dernière heure n'est pas venue. Il finit par se remettre et par sortir de l'hôpital. Il est gravement amaigri, il a perdu au moins 15 kilos, une partie de ses membres est toujours paralysée et il est incapable de se déplacer sans béquille. Il est à moitié aveugle, mais il est bien vivant.
Je veux pas mourir. Je veux revenir. Avec des réponses sur l'au-delà, des réponses sur la vie.
Quelques années plus tard, Jean-Gérard Dubois flirte une deuxième fois avec la Grande Faucheuse. Pendant des vacances d'été à Collioure, au pied de la tour de guet médiévale, il manque de peu de se noyer. De cette presque noyade, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'il en réchappe de justesse. Là encore, il sait que ce n'était pas son heure. Ça aurait été si bête de mourir au mois d'août.
Vous avez eu de la chance, vous devez avoir des relations haut placées.
À partir de ce moment-là, la conscience de sa nature mortelle ne va plus quitter Jean-Gérard Dubois. Dans La face cachée de l'EMI, le livre qu'il publie en 2015, il écrit
« Cette pensée de la mort, je la porte depuis bien longtemps. Elle n'a jamais été paralysante, elle n'a jamais été un handicap, elle ne m'a jamais empêché de vivre, et de vivre bien, et de vivre heureux. Elle est là, simplement en arrière-plan, comme une ombre qui me suit et avec laquelle je me suis plus ou moins familiarisé depuis tant d'années passées en sa compagnie.
Nous nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas? Dans votre maison, vous ne vous rappelez pas? Je peux même vous dire que j'y suis encore maintenant.
Vous m'y avez invité. Ce n'est pas dans mes habitudes d'aller là où on ne veut pas de moi.
Qui êtes-vous?
Jean-Gérard Dubois a tutoyé la mort. Il pense l'avoir apprivoisée et elle ne lui fait plus peur. Mais rien ne l'a préparé à vivre ce qu'il va vivre le 28 septembre 2011. Au début de l'année 2011, les choses vont pourtant plutôt bien pour lui. C'est un fringant retraité qui coule des jours paisibles dans une petite commune du sud de l'Ardèche, près d'un bourg au nom plein d'optimisme, Joyeuse. Jean-Gérard vit là depuis plus de 30 ans avec son épouse Evelyne. Il passe ses journées à dessiner et à écrire quand l'envie lui prend. Seule ombre au tableau, un petit ennui physique qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Jean-Gérard Dubois souffre d'une compression du nerf cubital au niveau du coude gauche. La compression provoque des élancements extrêmement douloureux dans sa main. C'est comme si sa main gauche était en permanence serrée entre les mâchoires d'un chien enragé.
Sensation d'engourdissement du côté gauche, nausée, vomissement.
L'examen physique n'a rien révélé de notable?
Déficience de la perception chromatique, en particulier du rouge et aphtose buccale.
Imagerie, puis intervention. Diagnostic préliminaire?
Le corps médical est formel. Si rien n'est fait, et si les choses ne s'arrangent pas, le patient ne pourra tout simplement plus se servir de sa main gauche. Il lui faut une opération du coude. Elle est agendée au 28 septembre 2011.
Vous êtes battu courageusement. Mais il faut bien partir un jour.
Il est 8h30 du matin quand il se retrouve au bloc opératoire. De son propre aveu, il est complètement détendu. Il fait une confiance pleine et entière à l'équipe qui doit l'opérer. Autour de lui, le personnel médical s'active, vêtu des réglementaires blouses bleues, leur visage caché par des masques chirurgicaux. Jean-Gérard Dubois est étendu sur la table d'opération, ses yeux s'arrêtent un moment sur ses pieds, emballés dans des petits chaussons bleus en papier. Son opération du coude est censée se dérouler sous anesthésie locale. Son bras gauche va être endormi, mais lui-même devrait rester pleinement conscient pendant toute la durée de la procédure.
Qui est là ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Non, laissez-moi ! Docteur, 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 docteur !
Que se passe-t-il ?
Son bras gauche s'engourdit, il devient lourd, mais Jean-Gérard Dubois le sent encore très bien. Trop bien.
Restez tranquille.
L'anesthésie ne lui semble pas suffisante.
Ne bougez pas.
Il cherche à tester ses sensations. Il bouge les doigts.
Diazépam,
non, non.
À ce moment-là, il essaye de prévenir l'équipe médicale que son bras n'est pas endormi correctement, qu'il ne faut pas encore commencer l'opération, mais les mots restent coincés dans sa gorge. Son esprit se brouille, son corps entier s'engourdit, il ne parvient plus à bouger quoi que ce soit, ni ses bras, ni ses jambes. Il a le sentiment qu'il s'endort, qu'il flotte dans une sorte de brouillard cotonneux. Il entend une voix, sans doute celle d'une infirmière, qui lui dit « Ne vous inquiétez pas, nous allons vous retourner sur le côté droit. Vous allez ressentir un peu de froid, ne vous inquiétez pas. »
Écoutez attentivement ce que je vais vous dire. On vous a prescrit un médicament qui est connu pour avoir des effets secondaires sur le psychisme. Personne ici ne veut vous tuer.
Jean-Gérard Dubois se souvient effectivement avoir ressenti l'effort coordonné de plusieurs personnes pour le retourner. Il sent aussi le froid de la table. Pour une raison qu'il ignore à ce moment-là, l'équipe médicale a dû l'endormir totalement et elle lui a administré de la kétamine. Et pendant que son corps repose, inerte, sur la table d'opération, son esprit commence un voyage dont il reviendra profondément marqué. Dans le livre qu'il publie en 2015, « La face cachée de l'EMI », il insiste longuement sur un fait. Les mots sont incapables de retranscrire avec acuité ce qu'il a vécu. Les choses qu'il a vues, et surtout les choses qu'il a ressenties, ne peuvent pas être appréhendées correctement par le langage.
Est-ce que tu te souviens d'une émotion quelconque, ou d'une sensation de chaud ou de froid, n'importe quoi ?
On ne peut pas faire une analyse aussi spécifique.
Il paraît qu'on voit de la lumière au bout d'un tunnel.
Il n'est d'ailleurs pas le seul expérienceur à témoigner de ce problème. De très nombreux récits d'EMI mentionnent cette difficulté à mettre des mots sur l'expérience vécue.
Non, mais il y a vraiment quelque chose.
Quand l'expérience commence, la première chose qu'il ressent, c'est un sentiment qu'il nomme dissociation. Son esprit et son corps évoluent de façon séparée. Il réalise que son corps ne répond plus. Il se souvient avoir réfléchi à la question sur le moment et être arrivé à la conclusion que les médecins ont dû procéder à une anesthésie générale. Il se dit qu'il doit donc être endormi. Mais chose étrange, son esprit reste étonnamment alerte. Il est capable de raisonner sur le fait qu'il est en train de raisonner. Il dort et il analyse en même temps son sommeil avec précision. À part ce sentiment de dissociation, au début de l'expérience, Jean-Gérard Dubois ne ressent rien de particulier. Pendant un temps qui semble s'étirer pendant des heures. Et puis tout à coup, il est happé dans un tunnel. Il parle d'un tube, un espace noir dont il ne saurait dire s'il est horizontal ou vertical. Il se retrouve propulsé dans le noir absolu. Il a la sensation de tomber sans fin. Il est couché et il aperçoit devant lui ses pieds nus. Il a les yeux ouverts, il essaye de les lever vers le ciel, mais il n'y a plus de ciel. Et plus de sol non plus, seulement du noir, tout autour de lui. L'expérienceur se trouve dans un lieu indéterminé. Il est entouré d'un silence épais et extrêmement angoissant. Il ressent un immense désarroi. Tout est obscur, mais au fond, assez loin, il voit un grand tableau lumineux. Le tableau est placé à la verticale. Ça ressemble au tableau lumineux qui se trouve dans la salle d'opération. Mais il n'y a rien d'écrit dessus. C'est juste un grand rectangle aveuglant. Chose remarquable, pendant toute la durée de son expérience de mort imminente, Jean-Gérard Dubois aura toujours la conscience de là où il se trouve. Un bloc opératoire pendant une opération du coude. Il sait, plus qu'il ne sent, la présence des médecins en train de s'affairer autour de lui. Il a beau être plongé dans le noir absolu, il est persuadé que les médecins font de leur mieux pour prendre soin de lui et qu'ils vont mettre fin à cette odyssée terrifiante. Quand il se retrouve face à ce grand tableau blanc lumineux, l'expérienceur pense voir le tableau accroché au mur du bloc opératoire, celui-là même. Il est persuadé que les médecins ont eux aussi le regard fixé sur ce tableau et qu'ils contrôlent la situation.
On dégage !
En se rapprochant lentement de ce qu'il voit, il s'aperçoit maintenant qu'il y a en fait deux tableaux rétroéclairés, placés l'un au-dessus de l'autre. Le tableau du bas est sensiblement plus étroit que celui du dessus. Entre les deux tableaux, il y a une barre noire, épaisse, et en haut du tableau, un gros curseur noir qui descend lentement. À part ça, rien. Pas un bruit. Rien à quoi se raccrocher. Dans la face cachée de l'EMI, Jean-Gérard Dubois écrit:
un silence total. La lenteur du curseur qui descend, la lumière éblouissante du tableau, le noir. Je ne vois ni les bords du tunnel, ni le fond. Peut-être qu'il n'y a pas de fond. Je ne sais même plus si c'est un tunnel. L'espace est infini. Je flotte, je ne sais où. Cela dure. Par un bruit. Tout est effrayant. Je n'ai jamais vécu cela. Personne n'a jamais vécu cela. Une telle angoisse. C'est inhumain. À mourir d'effroi.
Jean-Gérard Dubois comprend brutalement ce qui lui arrive. Le grand tableau blanc représente sa vie et la barre en bas du tableau, sa mort. Quand le curseur atteindra la barre noire en bas du tableau, c'est sûr, il va mourir. La terreur le submerge.
Rien. Massage cardiaque. Une fois 200. Deux fois 200. Trois fois 200. Quatre fois 200. Cinq fois 200. Respire. Massage cardiaque, adrénaline et toujours rien.
1 minute 45.
Malgré la panique qui le gagne, il essaye encore de raisonner et d'analyser la situation. Le curseur qui descend, c'est le sommeil dans lequel on le plonge. C'est l'anesthésie liée à l'opération. Les médecins savent ce qu'ils font. Ils vont arrêter le curseur et le stabiliser. Mais le curseur descend encore. Le malade a toujours l'impression de tomber le long d'un tunnel, en même temps qu'il flotte dans le néant. Les deux sensations coexistent. Elles le plongent dans une frayeur absolue. Il essaye de crier. Sa bouche s'ouvre, ses cordes vocales se tendent, mais aucun son ne sort.
Tracé plat.
L'amplitude diminue. Il est mourant.
Mort cérébrale. Maintenant, on y est.
Le temps se dilate. Jean-Gérard Dubois a le sentiment qu'il tombe dans le noir absolu depuis des heures et des heures. Le curseur continue de descendre, inexorablement, vers le bas du tableau. L'esprit tourmenté du malade est figé par l'angoisse. Et en même temps, il raisonne. Il a conscience de vivre une expérience hors du commun. Il se sent seul, incroyablement seul, terriblement seul. Tout autour de lui, tout a disparu. Le monde, les gens et même les sons. Il ne lui reste que cette peur, cette angoisse immense qui lui étreint le cœur et l'esprit. Le curseur continue à descendre. Une idée s'impose à lui. Il va mourir. Il va mourir.
Vous êtes sûr que 2 heures après, vous avez envie de le faire revenir?
Les records, c'est fait pour être battu.
Vous vous rappelez ce qui s'est passé la dernière fois?
Adrénaline cardiaque.
Sa température est basse.
Faites-la monter jusqu'à 37. 37. Doucement.
Jean-Gérard Dubois pense à sa femme, à Yveline. Il essaye de l'appeler. Une fois, 10 fois. Il sent des sanglots secouer sa poitrine, mais toujours aucun son qui ne sort de sa gorge. Le silence et l'obscurité sont absolus. Le curseur atteint la grosse barre noire en bas du tableau. Jean-Gérard Dubois est mort. Il se voit mort. Il est couché sur son lit et il réfléchit à sa mort.
Les voix me l'ont déjà dit. Elles disent, n'as-tu pas assez fait? As-tu dit à tous les tiens que tu les aimais? Et je l'ai fait. Oui, je l'ai fait.
Alors il a un sursaut. Si sa conscience est toujours là, c'est qu'il n'est pas mort. C'est que son esprit peut encore réintégrer son corps. Il regarde le tableau lumineux. Le curseur continue à descendre. Il est passé sur le second tableau, celui du bas, celui qui est plus étroit. Jean-Gérard Dubois écrit
« Je m'étais trompé. La mort n'était pas en bas du grand tableau, mais en bas du petit, là où s'arrête la lumière, là où commencent les ténèbres. »
La mort est-elle la quatrième dimension? Oh mon Dieu, il doit être dans ce truc depuis des années.
Jean-Gérard Dubois ressent le besoin de parler. Il pense s'adresser à l'équipe médicale. Il leur raconte sa vie, les belles choses, mais aussi les mauvaises choses de sa vie. Il doit tout dire. Il a le sentiment que ceux qui l'écoutent le jugent. Alors il leur parle d'amour. Il leur dit qu'il aime sa femme, qu'il aime ses enfants, qu'il aime sa famille et ses amis. Jean-Gérard Dubois est en train de vivre la fameuse « revue de vie » dont font mention de très nombreux expérienceurs. C'est une phase courante des EMI, qu'elle soit positive ou négative.
Et c'était vraiment la plus jolie lumière que j'ai jamais vue. Et j'ai entendu la voix. Et c'était vraiment la plus jolie voix que j'ai jamais entendue.
Le curseur continue toujours de descendre. Le malade flotte toujours dans un silence de plus en plus épais. Il ne s'est jamais senti aussi seul. L'expérience dure depuis des heures, peut-être même depuis des jours. Mais soudain, le temps presse. Le curseur atteint le bas du second tableau. Tout se brouille. Jean-Gérard Dubois regarde ses pieds, mais ils ne sont plus là. Ils ont disparu dans les ténèbres. Son corps se dissout petit à petit dans la noirceur. Ses jambes, puis ses mains, son cou. Il est dans une souffrance psychique indescriptible. Il se voit littéralement disparaître. Il essaye encore et toujours de crier sans qu'aucun son ne sorte. Ses lèvres, sa langue, tout finit par disparaître. Il ne lui reste que ses yeux qui disparaissent à leur tour. Jean-Gérard Dubois est mort. Il s'est dissous dans le néant. Mais son esprit reste. Son esprit est toujours là, qui réfléchit à sa mort. Son esprit qui ne peut rien faire à part penser dans la solitude la plus absolue.
Y a quelqu'un ? Y a quelqu'un ?
Juste avant ou juste après s'être dissous, il ne saurait le dire, le patient perçoit des silhouettes autour de lui. Ce sont des silhouettes en bleu, des soignants. Le chirurgien, l'anesthésiste. Il y a de l'agitation. Jean-Gérard Dubois regarde la scène depuis l'extérieur de son corps. Et puis, le calme revient. Il est mort. Il est toujours couché sur la table d'opération. Il avait vu disparaître ses pieds dans le néant, mais à présent, ses pieds sont de nouveau là. Il les voit clairement. Il est mort et il attend qu'on le transporte pour rendre son corps à sa famille.
Une fois 200, deux fois 200, trois fois 200, quatre fois 200, cinq fois 200, respire.
Clé.
Rien.
Nom de Dieu, regarde. Oh. Quoi?
Il a bougé, je crois que je l'ai vu bouger.
Il a bougé ou tu crois qu'il a bougé?
J'en sais rien, c'est peut-être un réflexe ou un truc de ce genre.
C'est pas lui, l'écran de contrôle est plat de chez plat.
Oui, c'est probablement un réflexe musculaire lié à la stimulation. Non, je l'ai vu, je vous jure que je l'ai vu bouger.
Oui, là c'est ce qu'on appelle un réflexe.
Et puis, il essaie de bouger un doigt. Et son doigt bouge. Et son esprit fonctionne. Incroyable. Jean-Gérard Dubois réalise qu'il n'est pas mort. Il essaie d'ouvrir les yeux, il n'y parvient pas. Il est encore dans le brouillard. Il voit seulement que le tableau lumineux n'est plus là. Et qu'autour de lui, tout n'est plus noir. Il n'est pas mort. Alors Jean-Gérard Dubois remonte, lentement. Il revient. Il s'accroche à ce souffle de vie. Par moments, il dit retomber dans le tube, dans le noir absolu. Ces rechutes déclenchent chez lui de nouvelles angoisses. Il revit les mêmes douleurs, les mêmes souffrances, encore et encore. Et puis il se souvient à nouveau qu'il est en vie et il s'accroche à nouveau à son existence. Ce processus va durer très longtemps. À un moment, la conscience d'avoir été opéré lui revient. Il perçoit un bandage sur son bras gauche. L'intervention a donc bien eu lieu. Il ne sent pourtant pratiquement pas son bras, aucune douleur physique. Il faut dire que son esprit est bien occupé ailleurs, toujours en train de se débattre avec ses tourments psychiques.
1, 2, 3.
Il est 20h00. On le perd, vite. Branchez le défibrillateur.
Commencez le massage. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Toujours pas de coup. Électroplat.
Allez chercher quelqu'un en chirurgie. C'est bon? Changeons.
Engin. Chargé. Pas de changement.
200.
Réveille-toi.
Chargé.
Finalement, il entend une voix qui semble venir de très loin. Réveillez-vous, monsieur Dubois. Il est en salle de réveil. Il est bien vivant. Il est pris de crises de sanglots. Il va pleurer, sans être capable de parler, pendant plusieurs heures. L'infirmière lui dit de respirer. Il se calme un peu. Sur le mur de la salle de réveil, il y a une pendule. Elle affiche 10 heures du matin. La souffrance sans fin qu'a expérimenté Jean-Gérard Dubois a en fait duré à peine une heure et demie. Sur le plan physique, il va bien. L'opération du coude s'est bien déroulée. Il rentre chez lui pour y passer sa convalescence. Mais sur le plan psychique, Jean-Gérard Dubois est un homme dévasté. Ce qu'il a vécu le 28 septembre 2011 l'a profondément atteint. Pendant plusieurs jours après avoir quitté l'hôpital, il est pris de crises de sanglots irrépressibles et il fait régulièrement des crises d'angoisse.
On aurait dit que c'était comme si on n'éprouvait plus la peur. Comme si on était déjà crevé et qu'on n'ait rien à perdre en mourant encore. Oui, il est possible que ce soit parce qu'on avait tellement profité de la vie et qu'on l'ait tellement aimé qu'on s'imaginait être immortel et pouvoir vaincre la puissance divine par la force de notre passion pour la science.
Pourtant, l'histoire finit bien. Jean-Gérard Dubois n'a pas découvert les causes qui l'ont mené à son horrible voyage, mais en les cherchant, il a été obligé de se pencher sur sa vie. Et il a fini par vaincre son traumatisme. Ça lui a permis de se réconcilier avec lui-même. Il est désormais de nouveau un homme heureux, il est serein et il est capable d'embrasser la vie pleinement.
J'ai été déclaré mort pendant un peu plus de 4 minutes. Mais je n'ai vu aucun tunnel et je n'ai vu aucune lumière.
Je ne voulais pas mourir car j'étais athée. Pour moi, une fois qu'on est mort, on est mort, c'est fini. J'étais professeur d'université à l'époque. Tous mes amis étaient aussi des professeurs. On ne pensait pas. On savait que l'être humain était un être purement biologique. Donc, quand notre corps cesse de fonctionner, on meurt et ça s'arrête là. On était tous très anti-religieux.
Mourir n'est pas finir, disait Victor Hugo. Et c'est dans la ville où l'auteur français est enterré, Paris, qu'Howard Storm va connaître l'expérience la plus bouleversante de toute sa vie. Howard Storm est américain. Il est né à Newton, dans le Massachusetts, en 1946. Il est aussi diplômé de l'Université de Berkeley, en Californie. En 1985, notre artiste et professeur d'art à la Northern Kentucky University visite l'Europe avec sa femme et ses élèves. En ce samedi 1er juin, avant-dernier jour d'un périple de 3 semaines, le petit groupe se rend de bonne heure au musée de la Croix et il est à présent de retour à l'hôtel. Dans la chambre d'Howard et de sa femme Beverly, il y a une élève. Elle s'appelle Monica. Le trio organise les préparatifs pour les visites de l'après-midi. Il est notamment prévu de se rendre au musée Pompidou, connu aussi sous le nom de Centre Beaubourg. Mais en cette fin de matinée ensoleillée, Howard ne se sent pas très bien. Il est nauséeux. Il pense avoir une indigestion et avale deux aspirines en espérant que son état de santé puisse rapidement s'améliorer. Mais rien n'y fait. C'est même le contraire qui se passe. Il ressent rapidement une douleur de plus en plus intense au niveau de l'estomac. Pendant une conversation avec Monica, Howard fait un malaise. Ses jambes flanchent, son corps vacille, il se retrouve à terre avec un déchirement au niveau du ventre qu'il compare lui-même à un coup de pistolet qu'il viendrait de recevoir en pleine poitrine. Quelque chose de grave est en train de se passer, mais personne ne sait ce que c'est. Pendant que le professeur couché sur le sol de sa chambre souffre le martyre, sa femme demande à la réception de faire venir dans les plus brefs délais un docteur. Dix minutes plus tard, on frappe à la porte de la chambre. Et c'est un jeune médecin d'une trentaine d'années qui tente à présent, avec l'aide de Monica et de Beverly, de coucher délicatement Howard sur son lit pour l'ausculter. Le diagnostic tombe et il n'est pas réjouissant. Howard a une perforation du duodénum. Il faut l'emmener de toute urgence à l'hôpital.
Ça va ? Restez calme, je vous emmène faire une petite virée. Tenez le coup, ça va aller, ce sera pas long.
Dans l'ambulance, on injecte à l'homme agonisant et accablé de douleur une dose de morphine qui calme tout de suite l'intensité de la brûlure interne. La fin du voyage scolaire, prévu le lendemain, avec une visite d'Amsterdam, semble à présent sérieusement compromise, se dit Howard, qui retrouve peu à peu ses esprits. L'ambulance file à toute allure dans les rues de Paris, puis s'arrête devant les portes d'entrée des urgences de l'hôpital Cochin. Deux femmes médecins procèdent à un examen minutieux du nouveau patient pendant que Beverly Storm remplit de la paperasse dans le hall d'entrée. Les radiographies confirment le constat du jeune docteur. Howard a un large trou dans le duodénum, causé peut-être par un ulcère. Impossible donc en l'état pour le professeur d'art de retourner aux États-Unis. Il va falloir l'opérer dans les plus brefs délais. Heureusement pour vous, disent les deux jeunes femmes en blouse blanche, vous êtes au bon endroit. Cochin est le meilleur et le plus grand hôpital de Paris.
J'ai prévu de vous faire passer une IRM pour s'assurer que tout va bien. Bon, je vous laisse. Je suis sûr que vous m'avez assez vu pour le reste de votre vie. Je reviendrai vous ausculter plus tard.
On intube le jeune souffrant qui entend au loin une conversation entre plusieurs médecins. Il parle d'un séjour hospitalier de 3 ou 4 semaines, puis de quelques mois de repos à la maison.
Ça va pas ?
Demandez-lui
d'envier. Tu... Hey !
Samedi 1er juin 1985. Il est midi. Un brancard passe dans un immense couloir. Howard Storm, le visage tendu et la main sur le ventre, est allongé dessus. On l'emmène à l'étage supérieur pour le rapprocher du bloc opératoire. L'idée de passer sur le billard n'est jamais très agréable. Mais la douleur est tellement vive qu'il attend avec impatience l'anesthésie générale.
C'était l'enfer, tu me disais. Et il a eu l'enfer.
Dans sa chambre, il y a déjà un pensionnaire, un certain monsieur Fleurin. Il a une soixantaine d'années et parle très bien l'anglais. Beverly fait un rouleau avec quelques draps blancs qui étaient dans le placard, afin de proposer un coussin d'appoint à son mari, car son lit n'en a pas. Mais il y a plus important que le coussin. Il y a l'abdomen du professeur d'art. La douleur est de retour et plus puissante que jamais. Howard en a le souffle coupé et quelques gouttes d'eau salée commencent à rouler sur ses joues. Heureusement, ce calvaire est bientôt terminé. C'est en tout cas ce que pense le couple qui se tient par la main. Mais dans la réalité, il n'en est rien. Ce que ne savent pas encore monsieur et madame Storm, c'est que pendant les week-ends, déjà dans les années 80, les hôpitaux parisiens sont en sous-effectif. La triste vérité, c'est qu'il y a au moment où Howard est admis aux urgences, un seul et unique chirurgien de garde. Un seul chirurgien pour des dizaines de patients en attente d'une opération.
Écoutez, je veux que vous fermiez la porte, pas pour savoir s'il y a quelqu'un, mais pour me prouver qu'il n'y a personne.
Ça vous rassurerait ? Salle B. Je vous rejoins dans une minute.
Non, mais laissez pas. Ne me laissez pas.
Ce que les Storm ne savent pas non plus, c'est qu'avec un ulcère duodénal, sans une intervention chirurgicale rapide, l'espérance de vie du malade est de 5 heures tout au plus.
Eh, je suppose qu'il est trop tard pour me détacher.
Samedi, 1er juin 1985. Il est 14 heures. Les minutes paraissent à présent des heures. L'état de Howard ne cesse d'empirer. Il y a des torrents de lave incandescente qui se déversent dans son abdomen. C'est une véritable torture. La douleur se propage à présent dans tout le reste du corps. Et à semi-conscient, Howard réclame encore et encore de la morphine.
J'ai pas besoin de ça. Non ! Alors vous vous gourrez, c'est pas pour moi ! Aidez-moi !
Beverly, elle, est au bord de la crise de nerfs. Une infirmière lui demande de se calmer et insiste sur le fait que l'opération sera réalisée dans les plus brefs délais.
Ça va aller. Aidez-moi ! Aidez-moi ! Au secours ! Au secours !
Samedi 1er juin 1985. Il est 18h. Il faut bien se rendre à l'évidence. Les infirmières de l'hôpital Cochin n'ont pas dit toute la vérité. Howard est en train de s'éteindre sur son lit. Il n'y a plus de chirurgien dans l'hôpital Cochin. Celui de service est rentré chez lui. Il ne reviendra que demain matin. Beverly est consciente à présent qu'elle est en train de perdre son mari, qu'il n'y a plus d'espoir.
Promets-moi que tu iras jusqu'au bout.
Respirer devient presque impossible pour le professeur d'art, qui, dans une dernière lueur de lucidité, comprend que la fin est proche, que les aberrations administratives l'ont condamné à mort.
Pas de baiser d'adieu.
On va se revoir.
Le soleil se couche à présent sur la ville lumière. 10 longues heures se sont déjà écoulées depuis les premières apparitions des symptômes. Il faudrait pouvoir en vivre 10 de plus pour être opéré et peut-être sauvé. Beverly n'arrive plus à retenir ses larmes. Howard n'arrive plus à retenir la vie qui semble lentement s'échapper de son corps. Les amoureux se disent adieu, un dernier baiser, puis Howard ferme les yeux en pensant. Finissons-en maintenant.
Tu entends le bruit des voitures sur les rives du lac. Et derrière ça, le bourdonnement. Les lampadaires dans les rues. Et encore plus loin, j'entends un autre son, un son qui m'attire vers lui. Je le sens qui s'approche.
Samedi 1er juin 1985, 21h, clap de fin pour Howard Storm. Il vient de mourir, à l'âge de seulement 38 ans.
On le refait avec 13 kilovolts.
Ça va cramer, reste.
C'est un ordre, 13 kilovolts. C'est numéro 2. On y va, 3, 2, 1.
Tracé plat.
Réveille-toi.
Puis, comme après un terrible cauchemar, l'inexplicable se produit. Howard se réveille. Il est à présent debout entre son lit et celui de M. Fleurin. Un peu hébété, il se demande ce qui est en train de lui arriver. S'il n'est pas en train de rêver. Mais étrangement, Howard se sent plus alerte que jamais et sa douleur au ventre a presque disparu. Pendant que de nombreuses pensées se bousculent dans son esprit, l'homme serre fort sa main pour avoir la preuve qu'il est bien vivant. Puis il touche son corps. Tout est là, à sa place. En tournant la tête dans cette chambre bercée d'une étrange lumière douce et rassurante, Howard observe son compagnon de chambrée qui s'endort et sa femme Beverly, immobile sur sa chaise. Elle est épuisée par le chagrin. Howard tente de la rassurer, de lui dire qu'à présent tout va bien, qu'il se sent déjà beaucoup mieux. Mais elle ne réagit pas.
Je ne sens déjà plus rien.
Soudain, Howard aperçoit un corps dans son lit. Il se penche et observe avec stupéfaction une personne qui lui ressemble. Mais on dirait un mannequin de vitrine, un double sans vie et donc sans importance. Le jeune professeur a bien du mal à comprendre ce qui lui arrive. Des dizaines de pensées furtives et contradictoires le traversent. Est-il vivant? Mort? Est-il en état de délire intense? Pourquoi Beverly et M. Fleurin ne disent plus rien?
Tu ne peux pas revenir en arrière.
Entre colère, peur et confusion, Howard ne sait plus comment il doit interpréter ce qui est en train de se dérouler lorsqu'il entend tout à coup au loin, à l'extérieur de sa chambre d'hôpital, des voix. Des voix qui l'appellent par son prénom et à plusieurs reprises.
C'est fini. Viens avec
moi. Il est temps de dire au revoir.
Il faut que tu partes.
Ce sont des voix plaisantes, masculines et féminines, des jeunes et des plus âgés. Des voix qui s'expriment, chose étonnante, dans un anglais parfait. Puis elle demande à Howard de venir, parce qu'elles l'attendent depuis très longtemps. Howard répond qu'il ne peut pas les rejoindre, qu'il est gravement malade et en attente d'une opération. Les voix répliquent « On peut arranger ça. Viens vers nous et nous allons t'aider. »
Tout va bien. Ce sont des voix amicales. Elles vous ont dit ce qu'il faut que vous sachiez. Que vous avez votre place dans leur univers.
Howard demande alors qui elles sont, puis pose tout un tas d'autres questions qui finissent par les agacer. Puis après quelques secondes de silence, elle répète sur un ton complaisant « Viens vers nous et nous allons t'aider. »
Les colonnes stérosynaptiques sont inexistantes.
Je ne veux pas parler de cela pour l'instant.
Après plusieurs autres questions, restées sans réponse, le malade décide prudemment, mais sûrement, de se rendre dans le hall d'entrée de l'hôpital Cochin, afin d'avoir un premier contact visuel avec ces personnes qui souhaitent venir à son secours et qui semblent être les seules à pouvoir l'entendre et ressentir sa présence. L'atmosphère est de plus en plus étrange. Dans le hall stagne un épais brouillard. Howard devine les silhouettes de plusieurs personnes. Mais à chaque fois qu'il s'en approche, afin de pouvoir distinguer des visages, elle recule dans la brume, mais ne cesse de l'appeler encore et encore. Plus Howard avance dans les ténèbres, plus il ressent qu'il ne pourra plus retourner en arrière. Mais le désespoir et la résignation l'emportent sur la peur. Le voilà à présent, marchant à tâtons vers un endroit inconnu, guidé par des êtres lui répétant inlassablement que bientôt tous ses soucis prendraient fin. La porte de sa chambre d'hôpital devient au loin de plus en plus petite et l'endroit de plus en plus sombre. Il y a des ombres qui bougent, mais elles sont fugaces et approximatives. Howard a l'impression de marcher depuis déjà plusieurs kilomètres. Mais comment un couloir d'hôpital peut-il être aussi long ? L'Américain, avec encore un peu d'appréhension, demande « Mais où va-t-on ? Est-ce que c'est encore loin ?» Mais plus il pose de questions, plus les silhouettes deviennent acerbes et irritables, à tel point qu'il remarque qu'elles expriment à présent une certaine satisfaction à le voir désemparé. Howard a peur et il est de plus en plus méfiant. À chaque fois qu'il hésite à faire un pas de plus, il récolte une volée d'injures. L'obscurité devient totale. La porte de la chambre, le hall d'entrée ont disparu. Paniqué et désorienté, Howard décide de stopper net sa progression vers l'inconnu. Je m'arrête ici, vous n'êtes que des menteurs.
Vous croyez t'avoir perdu.
C'est gentil d'être revenu.
Nous sommes déjà là. Nous sommes là comme toi.
Cette phrase est celle qu'il ne fallait surtout pas prononcer. Howard sent quelque chose se rapprocher, des présences de plus en plus menaçantes, mais il ne peut rien voir. Tout à coup, des mains le poussent, le bousculent. Il tente de répliquer.
Lâchez-moi ! Laissez-moi partir ! Lâchez-moi ! Je veux partir d'ici ! Lâchez-moi !
Échange de coups de pied, bousculade, morsure, une lutte féroce s'engage, une lutte bien inégale. Un contre tous, un combat à l'aveugle à l'issue bien incertaine. Ils sont à présent des dizaines, peut-être des centaines, à s'acharner sur Howard Storm. Et plus il cherche à se défendre, plus ses assaillants éprouvent une intense jouissance à le malmener physiquement et psychologiquement.
Aidez-moi.
Au rire sardonique s'ajoute à présent la sensation terrifiante de se faire dévorer vivant. L'homme n'est plus qu'un jouet de chair et d'os que des créatures sont en train de déchiqueter.
Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ?
Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ?
Dans cette obscurité, le sentiment de violence est amplifié. Chaque son, chaque coup est comme décuplé. Le contact physique est repoussant, mais il permet à Howard, dans cette lutte pour sa survie, de se faire une image plus précise de ses ennemis. Il semble avoir un corps humain à deux exceptions près. Ils ont des ongles immenses et tranchants et des dents anormalement longues. Ces assaillants ressemblent aux monstres de nos cauchemars, aux chimères de nos contes horrifiques, aux peuples des ténèbres. Ils n'éprouvent aucune compassion ni pitié pour leurs victimes. Leur cruauté est sans limite. Le vacarme provoqué par les mouvements des corps, les attaques et les railleries de toutes ces entités est infernal. Infernal. L'adjectif n'est pas anodin. Il signifie qui appartient à l'enfer ou aux enfers. Et l'expérience qu'est en train de vivre Howard Storm ressemble étrangement aux peintures et aux gravures évoquant le monde des ténèbres. Sauf qu'ici, il n'y a pas de flamme rougeoyante pour éclairer cette scène d'une violence inouïe. Tout se passe dans le noir, le plus total. À présent, Howard est à terre, dans un état pitoyable, comme torturé, écartelé. Son calvaire sur son lit d'hôpital semble bien peu comparé à ce qu'il est en train de subir. Déchiqueté à l'intérieur, comme à l'extérieur, Howard sait qu'à présent il est perdu à tout jamais et qu'il est en train de muer à son tour en créature de l'obscurité.
Vous n'êtes pas réel !
Dans son livre, Voir Paris et mourir, il ajoute :
Ces événements furent si horribles et perturbants que je ne veux pas m'en souvenir. Il m'a fallu des années pour essayer d'en oublier une grande partie.
Dans les pages suivantes, ce récit de l'au-delà va prendre une tournure beaucoup plus favorable et connaîtra même une issue heureuse, puisqu'Howard va revenir d'entre les morts et complètement changer de vie. Ce sera sa seconde vie.
Il est revenu !
Adrénaline, plus d'adrénaline.
Qu'elle soit positive ou négative, une expérience de mort imminente bouleverse toujours profondément et durablement les expérienceurs, mais aussi leurs proches. Plus rien ne sera jamais comme avant, et ce n'est pas toujours facile de l'accepter, de témoigner et de tout reconstruire.
J'avais la sensation que quelqu'un me prenait la main.
J'ai levé les yeux et j'ai vu une lumière, un immense mur de lumière, une lumière d'une immense intensité.
Tout à coup, j'étais dans un endroit différent.
J'ai du mal à trouver des mots qui puissent décrire ce que j'ai vécu.
À ce moment-là, j'ai eu une expérience extracorporelle.
Je me souviens que j'ai eu l'impression d'être aspiré en arrière, comme si on me tirait hors de l'eau.
Je ne pensais pas par moi-même. Des réponses, des messages me venaient comme ça. Et les couleurs étaient si éclatantes, j'en avais jamais vu de pareil.
Et tout à coup, j'ai été projetée de nouveau dans mon corps.
Je voyais mon corps en bas sur la table,
J'étais comme mort.
C'était... Et je flottais dans les airs.
Tout ce qui me semblait important a été balayé par cette vague d'amour.
Et je sentais une force d'attraction qui m'attirait vers le bout du tunnel. Le bout du tunnel. Où est-ce qu'elle m'emmène ?
Je comprends pas ce qui se passe. J'ai l'impression de devenir cinglée. J'ai des hallucinations. C'est quelque chose que j'ai fait.
Qu'elle soit positive ou négative, que pense la science de toutes ces expériences ? Les EMI deviennent un sujet d'études scientifiques à la fin des années 70, notamment avec la sortie du livre « La vie après la vie » du docteur Raymond Moody en 1975. À partir de là, un basculement va s'opérer et on commence à sérieusement s'intéresser à ce qu'il se passe quand on meurt. Ce n'est plus seulement un sujet religieux ou philosophique, ça devient un sujet d'études scientifiques. On s'intéresse de plus en plus à ce qui permet de rendre compte des EMI, les témoignages de ceux qui les ont vécus.
C'est l'ignorance qui est notre ennemi. Depuis quand le savoir est-il devenu une horreur ?
Surtout pour l'homme de science et le génie qu'il t'arrive d'être.
Car depuis le perfectionnement des techniques de réanimation, de plus en plus de gens racontent avoir vécu des choses extraordinaires pendant qu'ils étaient, de toute évidence, cliniquement morts.
Mais qu'est-ce que tu m'as fait ?
Il fallait que je rentre.
C'est au fond que ça se passe. Un travail en profondeur. Repose-toi, ça va se tasser.
J'ai eu un flash étrange.
Quoi ?
J'en sais rien, mais ça m'arrive ces temps-ci.
Le cardiologue néerlandais Pim van Lommel fait autorité dans le domaine des EMI. Il a notamment mené l'une des études les plus importantes à ce sujet, dans 10 hôpitaux des Pays-Bas et sur plus de 340 patients. D'après lui, les EMI sont loin d'être un phénomène marginal. Il considère que, rien que pour les États-Unis, 15 millions de personnes ont vécu une EMI. Son estimation se rapproche de celle de la Near Death Experience Research Foundation, qui avance le chiffre de 13 millions d'expérienceurs, soit 5% de la population américaine. Lors du dernier congrès de l'Académie européenne de neurologie à Oslo, en Norvège, on a présenté une nouvelle étude sur l'occurrence des EMI. D'après ces chercheurs, une personne sur 10 dans le monde aurait vécu une expérience de mort imminente. Pour mener à bien cette étude, on a interrogé 1034 personnes originaires de 35 pays. Ils ont été soumis à un questionnaire précis de 16 questions élaboré par Bruce Grayson, professeur de psychiatrie à l'Université de Virginie aux États-Unis. Car pour étudier rigoureusement les EMI, il faut pouvoir analyser de façon objective les témoignages de ceux qui les ont vécus.
Et tout ça, ce sont des scanners post-mortem de patients qui sont morts dans cet hôpital. Si le cerveau est un organe comme un autre, pourquoi il ne s'arrête pas de fonctionner purement et simplement quand on meurt ? Pourquoi cette impression de flotter ? Pourquoi la lumière blanche ? Pourquoi cette sensation de bien-être ? J'aimerais comprendre, savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est chimique ou est-ce que c'est quelque chose d'autre ? Est-ce qu'on pourrait cartographier ce processus comme on sait le faire avec un AVC ? Vous imaginez si on réussissait à démontrer scientifiquement ce qui se passe une fois qu'on est mort ?
Pour ce qui est des EMI dites négatives, là encore, des scientifiques se sont penchés sur la question. L'une des études à propos des EMI a été réalisée par Elena Cassel et ses collègues du Coma Science Group du CHU de Liège, en Belgique. Sur 123 témoignages recueillis, 14% relatent des expériences de mort imminente jugées déplaisantes. L'une des témoins raconte avoir vécu, comme Jean-Gérard Dubois, une plongée dans le vide absolu avec un sentiment de grand isolement. Et 8 autres personnes racontent, elles, avoir vécu une expérience infernale.
C'est comme si j'étais en enfer. Il n'y a aucune autre façon de l'expliquer. Et surtout, dis pas que je suis cinglé. Je sais que non, mais... Mais ils me poursuivent. Ils me traquent constamment. Je les vois même sortir des murs. J'ai confiance en personne.
Kenneth Ring est professeur de psychologie à l'Université du Connecticut et il est considéré comme une sommité dans l'étude des EMI. En 1999, il estimait à 5% le nombre d'expériences de mort imminente dites négatives. Peter Fenwick, un neuropsychiatre anglais et également expert en ce domaine, les estime, lui, à environ 4% sur le total des expériences de mort imminente. L'existence des EMI fait désormais l'objet d'un consensus scientifique. Il est acquis que des personnes en état de mort clinique vivent une expérience. Ce fait n'est pas remis en question. Ce qui divise la communauté scientifique, c'est plutôt de savoir ce qu'est cette expérience. Une projection créée par notre cerveau ou le transport de la conscience vers une autre dimension. Cette question passionne de nombreux scientifiques, surtout ceux impliqués dans le domaine des neurosciences. Le sujet est tellement vaste et tellement passionnant que le 17 juin 2006, les meilleurs experts internationaux se sont réunis à Martigues pour faire le bilan de 30 années de recherche et de réflexion autour de ce phénomène hors du commun.
Un quart font état de visions dans lesquelles des défunts de leur famille viennent les chercher, les accompagner, leur faciliter le passage, leur parler, leur tendre la main. C'est très important que ce phénomène soit mis à la connaissance du grand public. Ça évite plusieurs choses. Déjà, premièrement, quand les mourants font état de ces visions, parfois certains pensent que c'est des hallucinations et leur mettent des médicaments, ce qui va encore plus obnubiler leur conscience, la confusionner et faire qu'ils vont plus être capables de rentrer en relation avec ces expériences qui sont extrêmement favorables pour eux.
Ce colloque réunissait tous les spécialistes du domaine. Raymond Moody, Pim van Lommel, Mario Beauregard, un Canadien spécialisé en neurobiologie, mais aussi le docteur Sam Parnia, responsable de la recherche en réanimation cardio-pulmonaire et professeur adjoint à la faculté de médecine de l'Université d'État de New York. La réunion de Martigues a donné une nouvelle impulsion à l'étude des EMI. L'une des questions qui agitent actuellement les chercheurs, c'est celle du siège de la conscience. Pendant une EMI, le corps de l'expérienceur est inerte et son cerveau est à l'arrêt. Or, si le cerveau est le siège de la conscience, comment expliquer que les personnes qui vivent une expérience de mort imminente soient encore capables de raisonner ?
Nous devrions finalement considérer la possibilité que la mort, comme la naissance, puisse n'être que le passage d'un état de conscience à un autre.
Pour les tenants d'une approche matérialiste de la science, la conscience est créée par les impulsions électriques du cerveau, et ce fait reste donc un complet mystère. D'autres, comme le chercheur en neurosciences Mario Beauregard, pensent au contraire que la conscience n'est pas liée à notre enveloppe physique. Il fait l'analogie avec la télévision. Quand on regarde une émission, celle-ci ne se trouve pas dans la télé. Le poste n'est que le récepteur et l'émission existe en dehors de lui. Ce serait la même chose pour la conscience, qui ne fait que s'incarner dans un corps, mais qui existe par ailleurs et par elle-même. Ça expliquerait que pendant une EMI, la conscience reste active et alerte.
Ça s'est passé tout en douceur. C'était un peu comme une encre qui se levait. Et j'ai flotté vers le plafond. Je voyais mon corps en bas. Et ensuite, j'ai vu le toit de l'hôpital. Alors que j'y ai jamais mis les pieds.
Hallucination sensorielle produite par un cerveau défaillant privé d'oxygène ou expérience réelle qui prouve à la fois qu'il y a une délocalisation de notre conscience ou une vie possible après la mort. Même si la question n'est pas encore définitivement tranchée, il est bon de souligner que ceux et celles qui s'intéressent le plus, en ce début de XXIe siècle, au phénomène des EMI, ce ne sont pas des occultistes ou des philosophes, mais des professeurs, des docteurs et des neuroscientifiques. La science a encore de nombreuses années devant elle avant de percer le mystère des EMI, d'autant plus que, ne serait-ce que pour des raisons purement déontologiques, il est impossible de jouer avec la mort. On ne peut pas envoyer des patients de l'autre côté et les en faire revenir aussi souvent que l'on voudrait.
C'est marrant, moi je te vois déjà dans le grand débat en train d'être interviewé entre les publicités et le bulletin météo. Ce soir, un brillant apprenti sorcier qui a exploré le monde de l'au-delà et en est revenu.
La célébrité est inévitable.
C'est une mauvaise raison.
Mais c'est une grande idée.
Ce qui est sûr, c'est que cette question de la survivance de l'âme est abordée depuis la nuit des temps par les évangiles, les Égyptiens, Platon, Victor Hugo, Voltaire, Tolstoï et tant d'autres. C'est sûrement l'une, si ce n'est la plus importante question que se pose tout être humain un jour dans sa vie. À ce titre, elle mérite que la science s'y consacre pleinement, au-delà de nos convictions, de nos préjugés et de nos dogmes.
C'est quoi cet endroit ? Cet endroit n'en est pas vraiment un. Et en même temps, ce n'est pas encore l'autre endroit.
Nuit blanche.
Il est temps à présent de partager avec vous nos ressentis personnels sur les expériences de mort imminente, et en particulier les EMI négatives. Cela fait de nombreuses années que j'explore peut-être, tout comme vous, le sujet des EMI. Et dès que j'ai entendu parler de ces récits infernaux, j'ai à la fois été effrayé mais en même temps très attiré par tous ces témoignages, car ils venaient casser le schéma type du tunnel, de la lumière, de la revue de vie. Et j'aime quand cette nouvelle cartographie de l'au-delà peut s'agrandir, s'étoffer, à chaque nouveau récit que je peux lire ou écouter et qui est différent du précédent. Je suis fasciné par toute cette complexité, plus d'ailleurs que par l'idée de rencontrer Dieu ou pas, parce que c'est, je trouve, une complexité qui ressemble étrangement à notre psyché humaine, avec cette lutte en nous et autour de nous, entre le bien et le mal, avec toutes les variantes qui peuvent se glisser entre ces deux extrêmes. Et je salue au passage les chercheurs du monde médical et scientifique qui osent braver l'interdit, qui osent parler, qui osent rassembler des témoignages, faire des études, élaborer des hypothèses aussi sur le sujet de la vie après la mort. Je trouve agréable cette approche ouverte et empathique du phénomène, car il me semble que jusqu'à présent, personne n'a pu encore prouver de manière définitive, scientifique et indiscutable, que l'au-delà n'existe pas. Alors, tant qu'un doute est permis, impossible l'est aussi, et c'est en plus, dans ce cas précis, impossible de tous les possibles.
Je suis pas mort.
Vous êtes quoi, alors ?
Vivant.
Qu'est-ce que vous faites ici ?
Ça n'en sait rien.
En ce qui concerne la catégorie si particulière des EMI négatives, j'ai l'impression qu'elles dépendent vraiment de nos émotions et de nos croyances. Sur la chaîne YouTube appelée Tistria, a été publié le 22 novembre dernier un témoignage d'une demi-heure intitulé « L'expérience de mort imminente » de Christine Clémineau-Naiglé. La jeune adolescente sombre petit à petit dans la dépression quand elle perd en fait sa mère à l'âge de 15 ans. Elle grandit dans un cadre familial dysfonctionnel et à un moment, elle est dans une telle détresse psychologique qu'elle décide de se jeter dans le vide. Étrangement, elle ne sent pas à ce moment-là son corps qui chute puis s'écrase sur le sol, mais qu'elle est comme en apesanteur. Elle flotte au-dessus de son corps, le suit dans l'ambulance jusqu'à l'hôpital, et à ce moment, toujours en décorporation, elle se détend et rencontre sa mère décédée quelques années auparavant. Mais au moment en fait où elle souhaite se jeter dans ses bras, sa mère lui intime l'ordre de ne plus avancer. Et puis là, elle s'évanouit dans la lumière. À ce moment précis, Christine ressent une colère énorme qui l'entoure de noirceur et elle tombe dans un gouffre infernal dans lequel elle retrouve des corps gluants et cauchemardesques qui veulent l'attraper. Moi, j'ai trouvé ce récit vraiment très intéressant parce qu'il montre une corrélation entre nos émotions et l'expérience qu'on vit directement. C'est-à-dire que l'émotion ressentie par l'expérienceur semble influencer directement le récit de son Noémie.
Et là, je m'effondre. Là, j'étais si proche du but. C'est pas possible qu'on me fasse ça, quoi. Et là, il y a une colère qui monte, mais c'est plus que viscéral, quoi. Il y a quelque chose qui m'englobe, une noirceur, et je commence à tomber, et là, l'expérience négative, elle commence, à ce moment-là. Une telle haine que je tombe dans un gouffre, mais sans fin, et au fond du fond, c'est horrible. Il y a des corps gluants de chair. En fait, c'est cauchemardesque. Si je me laisse faire, les corps vont t'attraper, en fait. Ils étaient là pour me dissoudre. Ils étaient là pour me détruire. Ils étaient là pour m'anéantir. J'ai résisté pendant longtemps parce que je me dis, t'as appris tellement de choses. C'est pas possible de finir comme ça, en fait. Il faut se battre.
Il faudra ensuite à Christine beaucoup de courage et de ténacité pour s'extirper de cet endroit épouvantable. C'est très intriguant et très bouleversant parce que c'est très proche de notre réalité d'être humain sensible. Quand je suis, par exemple, traversé par des émotions que je perçois comme négatives, que ce soit de la colère, de la tristesse, sentiment d'abandon ou de rejet, je vis mon propre enfer. Même s'il fait beau dehors, même si je possède toujours un confort matériel et que je suis en bonne santé, tout s'assombrit autour de moi. C'est comme si je ne voyais plus que le négatif. Et c'est seulement quand ces émotions désagréables se dissipent que je peux à nouveau revenir à quelque chose de plus léger, de plus joyeux, à la vie, à ma propre vie. Donc, peut-être en fait que l'au-delà n'est pas, c'est en tout cas comme ça que je le perçois, un voyage dans un monde très lointain, mais plutôt un voyage intérieur. Je terminerai d'ailleurs par une citation de Bruce Joel Robin, auteur des films Ghost et L'échelle de Jacob, qui donne une interprétation intéressante des EMI infernales. Voici ce qu'il dit. « Le ciel et l'enfer sont la même chose. Si tu as peur de mourir, tu feras l'expérience de démons arrachant tes entrailles. » Si par contre, tu attends la mort les bras ouverts, alors tu verras des anges te libérant de ta chair.
Oh, c'est impossible.
Qu'est-ce qui est impossible?
Je veux aller ailleurs.
Il n'y a pas d'ailleurs.
De mon côté, j'avoue que j'ai été très étonnée d'apprendre à quel point les EMI sont un phénomène courant. J'avoue que j'en avais absolument aucune idée. Et c'est aussi très émouvant de lire les récits de ceux qui sont revenus. Ils ont souvent réalisé beaucoup de choses et par la suite, c'est souvent une expérience qui a changé leur vie. Depuis que j'ai travaillé sur cet épisode, Mika, et depuis qu'on a travaillé ensemble sur la thématique des EMI, moi je me pose surtout la question du siège de la conscience. Je trouve que c'est absolument passionnant comme sujet. J'avais tendance à être plutôt matérialiste et à penser que la conscience est quelque chose généré par les impulsions électriques de notre cerveau et que quand le corps meurt, notre conscience meurt avec lui. Mais après avoir lu tous ces récits de EMI, j'avoue que je ne sais plus trop quoi penser. Les gens qui vivent des expériences de mort imminente, ils continuent à raisonner clairement alors que leur cerveau ne fonctionne plus. Donc finalement, comment c'est possible et qu'est-ce qui se passe? Et l'autre question qui me taraude, c'est celle de la vie après la mort. Si les EMI sont un aperçu de ce qui nous attend, alors quelles sont les chances qu'on finisse dans le néant ou en enfer? Jean-Gérard Dubois ne semble pas être une mauvaise personne, donc comment expliquer qu'il ait vécu une expérience aussi traumatisante? Et qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour essayer de l'éviter? Enfin, c'est souvent une constante avec Nuit Blanche, on a souvent plus de questions après qu'avant.
Je ne cherche pas à dévaloriser tout ce qu'il peut y avoir de merveilleux dans ce que vous racontez, mais il y a bien des explications, même pour les expériences extrasensorielles.
Et vous pensez que c'est plus facile de croire à ça, ou bien à la voyance, ou à la télépathie, que de croire qu'il y a une vie après la mort ?
Croire au miracle ? J'ai toujours pensé que c'était un concept assez peu concluant. Même avant d'avoir regardé mon mari mourir.
Mais s'il nous arrive de vivre quelque chose qui soit bien au-delà de tout ce qu'on ait pu connaître, quelque chose de totalement irrationnel, qu'est-ce qu'on fait ?
Si vous souhaitez prolonger votre exploration de l'au-delà avec quelques livres, films ou documentaires, voici quelques références qui pourraient vous plaire. On commence par « Voir Paris et mourir », une expérience aux frontières de la mort, disponible aux éditions Le Jardin des Livres. Cet ouvrage, de 210 pages, raconte l'EMI négative, puis positive, qu'Howard Storm a vécu en juin 1985 à Paris. À lire aussi « La face cachée de l'EMI » de Jean-Gérard Dubois aux éditions Edi Livre. C'est un récit de 474 pages, aux qualités littéraires discutables, qui raconte l'expérience négative vécue par Jean-Gérard Dubois en 2011 au cours d'une anesthésie et ses réflexions sur la vie après la vie. Nous vous conseillons aussi le site evelyne-elzesser.com, qui est le site officiel de la conférencière, autrice et chercheuse suisse Evelyne Elzesser. Depuis plus de 30 ans, Evelyne se consacre à la recherche sur les expériences de mort imminente. Vous trouverez en libre accès sur son site un document PDF d'une dizaine de pages intitulé « NDE négative, le revers de la médaille ou la face cachée d'une belle expérience ». À voir aussi le film « L'expérience interdite » de Joël Schumacher, sorti en 1990, avec à l'affiche Kiefer Sutherland, Julia Roberts et Kevin Bacon. Cinq étudiants en médecine se lancent dans une expérience aussi audacieuse que dangereuse, provoquer volontairement sur eux-mêmes des arrêts cardiaques pendant de courtes périodes afin de vivre des expériences de mort imminente.
Il y avait la pluie et cette lumière. Ensuite, plus rien.
Autre film, Souvenir de l'au-delà, réalisé en 1995 par Brett Leonard, avec Alicia Silverstone et Jeff Goldblum dans le rôle d'un père de famille qui, après un grave accident de voiture, fait une expérience de mort imminente. Lorsqu'il revient à la vie, c'est avec un don de prémonition. Son existence est liée à présent à celle d'un serial killer sataniste dont il peut prédire les prochains meurtres.
Je me demandais comment c'était de se retrouver de l'autre côté. Qu'est-ce que tu as vu là-bas ?
Oh, tu sais, ce n'est qu'un phénomène chimique.
Concernant les documentaires sur les expériences de mort imminente, on commence par « Et si la mort n'existait pas ?» de Valérie Seguin et Dominique Bachy. Il est disponible gratuitement sur YouTube, avec en interview tous les grands spécialistes des EMI, comme Pim Van Lommel, Jean-Jacques Charbonnier, Mario Beauregard ou bien encore Raymond Moody.
Nous sommes partis à la rencontre de ces scientifiques.
La mort, c'est une frontière difficile pour la science.
Ils ont étudié les EMI, expérience de mort imminente.
À ce moment-là, le cerveau s'arrête de fonctionner, et donc c'est plutôt étonnant que des personnes puissent rapporter quelque chose.
Et si la mort n'existait pas ?
Et si la mort n'était qu'un passage, est le second film du duo Valérie et Dominique. Il est disponible en VOD, sur le site de Vimeo et sur MyCanal. À voir aussi Thanatos, l'ultime passage, un film documentaire du journaliste et réalisateur Pierre Barnérias, sorti en salle en octobre 2019. Il s'agit d'une enquête sur les EMI avec des témoignages d'expérienceurs face caméra, ainsi que des spécialistes comme Jean-Jacques Charbonnier, Eben Alexander et Manuel Da Silva.
Well, my name is Ned Doherty and my life was about champagne and cocaine and younger women. 35 years ago, I had died not once, but twice.
On termine par le documentaire Le Grand Retour, réalisé en 2009 par Éric Robin et Cyril Bénard. Témoins et scientifiques tentent ici de faire le point sur le phénomène des EMI, qu'il soit cérébral ou paranormal.
Bon, pour l'instant, on a pu observer trois phases distinctes de développement. Phase 1, le sujet a ressuscité après une injection du sérum LAZ510 et l'envoi d'impulsions électriques ciblées. Phase 2, le sérum reste dans l'organisme plus longtemps que prévu. Phase 3, les fonctions métaboliques produisent potentiellement un déséquilibre hormonal. Le sujet montre des signes de confusion, une perte d'appétit et également des signes d'agressivité marqués. Nous sommes dans la phase 4 à cet instant. Le cerveau du sujet continue de créer de nouvelles connexions cérébrales à un taux de développement sans précédent et plutôt alarmant.
Après cette longue incursion dans l'antichambre de la mort, il est temps à présent de reprendre pied dans la réalité et de rejoindre le monde des vivants. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de ce voyage dans les ténèbres. C'était Nuit Blanche, saison 2, épisode 8, un épisode consacré aux expériences de mort imminentes, dites négatives. Nuit Blanche, un podcast original de Couleur 3, à la production et à la voix Michael Marquet, à la voix également Anne Flamand. Et pour mettre en ambiance ce récit, la réalisation est signée Franck Pourpri.
Qui est là? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Non, laissez-moi! Docteur, 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 docteur!
Cet épisode est le dernier de la saison 2 de Nuit Blanche. Nous allons profiter de l'été pour reprendre notre souffle et nos esprits, avant de revenir pour une troisième saison de Nuit Blanche, une troisième série d'histoires vraies qui vous empêcheront de dormir la nuit. D'ici là, vous pouvez réécouter tous les épisodes des saisons 1 et 2 sur votre application de podcast préférée iOS ou Android, sur l'application de Couleur 3, rubrique émission, sur Deezer et sur Spotify à la rubrique podcast, sur SoundCloud, sur Apple Podcast et sur Google Podcast, et sur rts.ch, rubrique radio podcast originaux. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions ou à poser vos questions, soit en nous laissant une appréciation sur Apple Podcast, soit en nous envoyant un email à nuitblanche@rts.ch. Encore merci pour votre écoute fidèle et attentive, ainsi que pour vos retours qui nous font extrêmement plaisir. Rendez-vous le 1er septembre pour un nouvel épisode de Nuit Blanche, une nouvelle histoire à écouter de préférence avec la lumière allumée, parce qu'on ne sait jamais.
Je m'éloignais doucement. C'était l'impression que j'avais. La vie me quittait. Mais je n'avais pas peur. Et puis je me suis rappelée que j'avais quelque chose à faire. Que je devais me rendre quelque part.